VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Au Cameroun, alourdissement du bilan du glissement de terrain qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Bafoussam, à environ 300 km de Yaoundé, dans la région de l'Ouest. De sources officielles ont fait maintenant état de 41 morts. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, fait le point.
Les fouilles dans les décombres, entamées dans la nuit de lundi par les populations et les sapeurs-pompiers, se sont poursuivies. Selon les autorités administratives locales, 22 corps ont été retrouvés dans les décombres, dont 12 déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Parmi les victimes, il y a une famille de 9 personnes, le père, la mère et les enfants, confient à VOA Afrique, une source médicale. Au moins 34 personnes manquaient encore à l'appel. Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest, rapporte que dans la nuit de lundi à mardi, au lieu dit Nkwashik Pamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, 13 maisons ont été emportées par l'avalanche de la boue après des pluies torrentielles. Il pleut sur la ville de Bafoussam depuis 3 jours. J'ai suivi un grand bruit vers 22 heures. Lorsque j'ai accouru, j'ai trouvé que les plantations, le bétail, les maisons ont disparu, témoigne Albert Kenyé, un rescapé et riverain. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Intempéries en République centrafricaine voisine aussi. Des milliers de personnes ont perdu leur maison à la suite d'inondations inédites en 20 ans qui sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles depuis une semaine et à la crue de l'Oubangui et de ses affluents. Au moins 28 000 personnes se retrouvent sans abri à Bangui, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Le point avec Blanche Sanou.
Des maisons détruites, des sans-abri, c'est le constat fait par Pasek Ibarra, l'un des coordinateurs des camps de fortune mis en place pour les habitants déplacés par les inondations à Bangui.
Approximativement entre les deux sites, on est à presque 1200. Ils sont là, vous voyez, on est sous la pluie, il n'y a pas de bâche. Et encore beaucoup plus de risques parce que les maisons qui ne sont pas écoulées sont en train d'être écoulées aussi. Donc le risque continue et il pleut.
Des préoccupations partagées par les personnes déplacées comme Faf Pilingbi et Rock Lionel qui attendent le soutien du gouvernement.
C'est vraiment triste, c'est catastrophique. L'eau a inondé nos maisons et détruit toutes nos affaires. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et notre situation alimentaire est difficile. Il fait froid et nous n'avons pas d'abri, pas même de plastique pour nous protéger. Le gouvernement doit prendre soin de nous.
Nous avons vraiment besoin de l'aide. Il y a des maisons qui sont détruites, les familles, les parents sont hors de leur maison. C'est un peu difficile lorsque tu quittes chez toi, lorsque tu n'as pas prévu, aller dormir ailleurs. Ce que tu as conçu pendant des années, hein, au bout de 2 jours, ça s'écroule. C'est pas facile. C'est avec beaucoup de chagrin que j'exprime ces mots-là.
Le Premier ministre Firmin Nkrébada a déclaré que les inondations étaient une catastrophe nationale et il a appelé à une aide nationale et internationale.
Les premières évaluations nous donnent un chiffre de 1500 ménages pour 8000 personnes affectées rien que pour la ville de Bangui et plus de 4000 ménages pour plus de 20 000 personnes affectées pour les villes de province. Compte tenu de l'ampleur du sinistre et du contexte particulièrement difficile que connaît le pays, le gouvernement, par ma voix, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, déclare le pays en situation de catastrophe et lance un appel à solidarité nationale et internationale.
La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. Ce même indice, publié en 2018 par les Nations Unies, montre également une croissance démographique rapide et des infrastructures médiocres exposant de nombreuses grandes villes africaines à un risque extrême de menace posée par le changement climatique. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles menaces.
Merci Blanche Sanou.
VOA Afrique en direct de Washington.
Agitation en Guinée. Les autorités guinéennes ont annoncé qu'elles ne pouvaient pas pour l'instant restituer à leurs familles les corps des manifestants tués récemment lors de la campagne de protestation de l'opposition contre un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. et ce pour cause d'autopsie. Les opposants comptaient faire des funérailles, une nouvelle occasion de manifester contre le chef de l'État, qu'ils accusent de vouloir changer la constitution guinéenne, qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux seulement. Au moins 8 manifestants, 10 selon l'opposition, plus un gendarme, ont été tués pendant cette campagne de protestation en cours depuis le 14 octobre. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui mène le mouvement, avait appelé à une mobilisation pour leur rendre dernier hommage aujourd'hui. Un responsable de la contestation a indiqué que la marche funèbre était maintenue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, intensification de la crise politique, le Premier ministre limogé par le président José Mario Vaz, dont le mandat a expiré, refuse de quitter son poste. Et le nouveau Premier ministre désigné est désavoué par la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Le président José Mario Vaz a démis lundi soir le gouvernement d'Aristide Gomez et nommé mardi Faustino Imbali premier ministre. Défiant le décret présidentiel, M. Gomez a réuni hier le cabinet déchu et a dénoncé des agissements visant à instaurer un désordre total en vue de la présidentielle du 24 novembre. La CEDEAO, qui a chargé en juin le gouvernement de M. Gomez de préparer la présidentielle, a déclaré hier le décret présidentiel illégal. Samedi, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation de l'opposition pour réclamer le report de l'élection. Le président Vaz, dont le mandat de 5 ans s'est achevé le 23 juin, brigue un second mandat. Il a fait état lundi d'une grave crise politique pour justifier le renvoi du gouvernement. M. Vaz a été exclu du PAIGC après avoir congédié du poste de Premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef de ce parti. Il avait encore refusé de le nommer à la tête du gouvernement après les législatives de mars. M. Gomez, qu'il avait finalement accepté de reconduire sur proposition de la CEDEAO, est lui aussi membre du PAIGC.
Le combat anti-djihadiste dans le Sahel. Au Nigeria, deux organisations humanitaires distribuant de l'aide aux populations affectées par les violences dans le nord-est du pays n'ont toujours pas reçu le feu vert des autorités pour reprendre leur programme d'assistance. Les bureaux de l'ONG humanitaire française ACF, Action contre la faim, et de l'ONG internationale Mercy Corps dans la région ont été fermés par l'armée nigériane le mois dernier. Les autorités accusent ACF en particulier d'avoir aidé et encouragé les djihadistes en leur fournissant des vivres et des médicaments. Résultat, les deux ONG ont interrompu tout leur programme d'aide et la situation n'a pas changé malgré les déclarations du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, qui dit avoir reçu lors de sa visite à Abuja la semaine dernière l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités d'ACF et de Mercy Corps serait bientôt levée. Actualité aux États-Unis pour terminer, un officier de l'armée américaine, membre du Conseil de sécurité nationale, a témoigné mardi à Washington devant les enquêteurs de la Chambre des représentants qui essaient de déterminer si le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un possible rival démocrate au présidentiel de 2020, à savoir l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le lieutenant-colonel Alexander Windman a dit avoir été tellement préoccupé qu'il a alerté ses propres supérieurs. « Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement enquête sur un citoyen américain. J'étais inquiet des conséquences pour les liens entre les deux pays et la sécurité des États-Unis », a-t-il expliqué. Le lieutenant-colonel Windman a écouté l'appel téléphonique du 25 juillet entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un Américain d'origine ukrainienne et un ancien combattant blessé pendant la guerre en Irak. Avant son témoignage, le président Trump avait écrit sur Twitter n'avoir jamais entendu parler de lui, l'accusant d'être un apôtre du tout sauf Trump, une allusion aux républicains qui lui sont hostiles. Jeudi, la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, votera pour la première fois en séance plénière pour formaliser l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution et autoriser des auditions publiques. Une résolution à ce sujet prévoit de permettre au président Trump de se défendre à condition qu'il coopère à l'enquête, selon une copie rendue publique mardi. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé une arnaque.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.